aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. On va commencer l'axe 2 qui porte sur les espaces de travail des doctorants et des doctorantes. Et je vais tout de suite donner la parole pour une intervention à deux voix à Marion Rolandin et François Allard-Huber.
Merci. Donc déjà, on remercie beaucoup les organisatrices de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Et donc, c'est une intervention à deux voix, à quatre yeux, à quatre mains, un regard croisé donc, sur le doctorat et ses espaces de travail, donc comme amorce de l'éthos de l'enseignant-chercheur. Donc, on part tous les deux de deux profils et deux parcours de doctorants assez différents. Donc, on a eu... Mais, commun tout de même, on a commencé notre master recherche ensemble, on s'est plus ou moins perdu entre guillemets au niveau du doctorat car j'ai eu un contrat doctoral et Marion n'a pas eu de contrat doctoral. Puis on se retrouve maintenant en tant qu'ATER tous les deux au CELSA, donc à Paris-Sorbonne, en sciences de l'information et de la communication.
Donc, voilà, alors juste en ce qui concerne les parcours, ce qui différencie aussi, c'est que je n'habitais pas sur Paris mais sur Avignon. D'ailleurs, j'y habite toujours, c'est pour ça que je risque de partir en cours de. À la fin de la communication. Là, on propose de réfléchir aux logiques et aux rites de passage propres aux différents espaces fréquentés à un moment clé pour nous dans notre parcours, c'est-à-dire qu'on s'approche du rendu de la thèse, donc d'ici, si tout se passe bien, d'ici la fin 2014. Et donc, on propose de faire un bilan sur des réflexions qu'on avait amorcées déjà en master sur ce que représentait pour nous la phase de doctorat. Donc là, on va présenter le doctorat comme une phase transitionnelle permettant la construction de l'éthos de l'enseignant-chercheur en devenir.
Voilà, donc, et on a souhaité pour faire cela, et c'est aussi issu de nos réflexions croisées sur notre pratique différente de la recherche et des lieux qu'on a fréquentés. On a divisé de manière pas artificielle, mais on a déconstruit un petit peu les espaces qu'on a fréquentés, bien qu'ils se recoupent par moments, notamment en ce qui concerne l'espace universitaire, donc et le doctorant ou la doctorante dans son université en tant qu'institution, mais aussi les espaces de la recherche, donc le doctorant face à sa recherche. Et donc ces deux espaces particuliers, donc espace universitaire d'un côté et espace de la recherche, nous ont permis un petit peu de réfléchir, de faire un retour réflexif sur nos différents parcours. Donc je commencerai par l'espace universitaire, donc qu'on a subdivisé en deux espaces, un monde académique de la recherche et un monde professionnel de l'enseignement. En ce qui concerne le monde académique de la recherche, on s'est beaucoup intéressé à la question du laboratoire et de ses attentes. Donc le laboratoire comme le lieu de la recherche, hein, comme le disait tout à l'heure avant Sébastien Cap, le laboratoire par moment c'est pas simplement une paillasse, mais ça peut être des textes, mais ça peut être aussi des rencontres et des lieux physiques également. Le statut de doctorant contractuel lorsqu'il s'accompagne d'une charge d'enseignement, ça permet de temps en temps d'avoir accès à un espace particulier, des salles de cours, des bureaux, mais aussi une présence physique attendue, hein, donc dans le sein du laboratoire, dans la vie du laboratoire et de la recherche. Donc c'est un espace particulier qui va avoir des attentes. Et ces attentes se manifestent donc dans cette vie de laboratoire, hein, donc cet espace de laboratoire au sein du monde académique de la recherche.
Voilà, donc quand on n'est pas doctorant contractuel, j'ai rencontré la difficulté de m'intégrer au laboratoire parce que justement j'étais autorisée à venir aux réunions, hein, c'était même souhaitable si donc j'avais accès, mais il n'y avait pas toutefois de véritable attente quant à ma présence et à mon intégration dans les projets. Alors, c'était d'autant plus compliqué que n'habitant pas sur Paris, j'avais pas forcément la possibilité de me déplacer s'il y avait une réunion d'une petite heure ou de choses comme ça. Et du coup, il a fallu développer des sortes de tactiques d'intégration et d'essayer de trouver d'investir ces espaces pour se montrer et rappeler qu'on existait. Donc, c'était d'autant plus difficile que je n'avais pas de bureau là-bas et que je devais faire des déplacements pour venir dans le laboratoire. Donc, malgré des statuts différents, on a tout de même été confrontés à des rites de passage académiques et administratifs, avec des attentes communes, notamment lors des séminaires de doctorat, où les étudiants doivent présenter leur travail en fonction de l'année où ils sont. Donc l'enjeu était de se plier à des différentes restitutions du travail, comme par exemple des mini-soutenances en deuxième année, ou une présentation de l'avancée du travail en troisième, ou juste avant de faire la véritable soutenance. Donc ces petits rites de passage, en fait, permettent d'être reconnus par l'équipe d'accueil.
Et cette reconnaissance, elle s'est construite au fur et à mesure. Sur ça, il y a un point, c'est que le laboratoire, par exemple, il n'accueillait pas toujours les doctorants aux réunions de laboratoire. Ça a été conçu, ça a été gagné, c'est des privilèges qui se négocient, tout comme les rites administratifs ou les rites pédagogiques. C'est à la fois une négociation, une validation faite par l'institution qu'il faut, dans laquelle il faut rentrer et suivre le jeu et contribuer. Et donc un deuxième aspect dans cet espace universitaire, c'est le monde professionnel, si on peut dire, de l'enseignement, avec la question de la charge d'enseignement, donc le monitorat pour certains, ou la charge d'enseignement dans le cadre du contrat doctoral. Donc dans ces cas-là, la question qu'on s'est beaucoup posée, c'est la question de l'enseignement à l'enseignement. L'activité de savoir est-ce que cette formation, cette charge s'accompagne d'une formation à l'enseignement ou pas. Et dans certains cas, elle s'accompagne, mais dans d'autres, c'est la portion congrue du travail qui est de ce qui est proposé. Par exemple, l'exemple clair, c'est que dans le cadre du contrat doctoral, il y a une obligation à suivre une formation continue. C'est 20 jours de formation continue pour les 3 ans de contrat doctoral. Et on sait que l'université, dans certains cas, cherche à s'en débarrasser au plus vite, de faire en sorte que le doctorant ne puisse jamais revenir et faire valoir le droit individuel à la formation. Donc il faut qu'il ait pris ces 20 jours de formation dans les 3 années de thèse, entre guillemets, ou les 3 années de contrat. Mais dans ces cadres-là, il y a des cours qui sont très recherchés. Par exemple, la formation à la docimologie est extrêmement recherchée, mais il y a très peu de place. Et on se retrouve à avoir des cours sur Word ou sur des cours d'anglais ou autres, qui sont des formations qu'on est obligé de prendre, parce qu'il faut remplir le quota d'heures, de jours de formation. Mais en même temps, on n'est pas vraiment satisfait, parce que ça ne rentre pas dans cette formation d'enseignement à l'enseignement. Donc ça, c'est un point qui nous a posé beaucoup de problèmes.
Voilà, donc moi, sans le contrat doctoral, je n'ai pas eu de cours de formation à l'enseignement, si on peut dire. J'ai même quasiment pas eu de cours tout court, parce qu'il fallait que je vienne sur Paris si je voulais vraiment avoir des opportunités, parce que j'en ai pas vraiment trouvé beaucoup près de chez moi. Donc, alors qu'aujourd'hui, j'arrive à un poste d'ATER, qu'on a tous les deux, où on nous demande de faire des cours, notamment de méthodologie de la recherche. Je me retrouve à devoir essayer de trouver comment faire ces cours, comment avoir cette pédagogie directement pour pouvoir présenter quelque chose de convenable face aux étudiants qui, eux, ont des attentes légitimes de se trouver face à un enseignant-chercheur en activité.
Et à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a une distinction très nette entre la présence physique dans le laboratoire, dans l'espace universitaire, entre même les étudiants qui ont un contrat ou qui n'ont pas de contrat, mais c'est la capacité à construire un réseau proche, notamment avec des enseignants-chercheurs titulaires, hein, des maîtres de conférences ou des professeurs, qui vont être autant de personnes qui vont pouvoir vous donner des cours qu'ils ont déjà donnés, vous donner des conseils, ces éléments-là qui n'apparaissent pas forcément lorsqu'on n'a pas accès à ce niveau-là et lorsqu'on n'a pas accès à une formation bien cadrée. Et l'apprentissage des codes est d'autant plus crucial dans ce moment-là, parce qu'on sent qu'on est en tant qu'enseignant-chercheur, son étau s'étend un peu en tension, parce qu'on est face à un public particulier qui va avoir ses attentes. On ne peut pas forcément y répondre.
Voilà, donc en ce qui concerne le réseau, ce qui est intéressant de faire, c'est d'arriver à trouver les personnes qui peuvent nous renseigner. Et là, en l'occurrence, ça tombe bien, parce que le doctorant ancien contractuel a pu me renseigner. Donc, on distingue également un autre espace, donc celui de la recherche. Et donc, on a différencié en commençant par un espace solitaire, donc par rapport à sa recherche. Alors, en fait, on a déterminé qu'en fonction de son objet de recherche, mais aussi du temps qu'on avait à lui consacrer, donc qui est déterminé par est-ce qu'on a un contrat, est-ce qu'on a des charges d'enseignement, ou est-ce qu'on n'a pas de financement et qu'on arrive à trouver des petits boulots. Par exemple, moi, j'écrivais des articles sur Internet, ce qui me permettait d'organiser mon temps plus ou moins comme je voulais, et donc d'avoir une approche et un investissement auprès de mon objet de recherche qui était vraiment assez intense. J'ai pu faire de l'observation participante pendant des journées entières, ce qui m'a permis d'avoir un rapport spécifique et d'être un petit peu plus libre en ce qui concerne la méthodologie.
Et dans ce cadre-là, dans le rapport à l'espace particulier, l'espace solitaire en fait, de la recherche, lorsqu'on est dans une situation avec un monitorat ou une charge d'enseignement, on est confronté pleinement, je dirais, aux injonctions paradoxales de la structure, du monde de l'espace de la recherche. D'un côté, il va y avoir toujours cette injonction paradoxale, c'est « publish or perish hein, », il faut publier, et en même temps écrire la thèse. Mais là, lorsqu'on a une charge d'enseignement ou un monitorat, ça va être « il faut donner des cours, être présent, faire du tutorat auprès des étudiants ou suivre des masters, des mémoires, etc. » et en même temps faire la thèse et être sur son terrain, ce qui est des fois parfois très compliqué. Donc la charge, si elle permet effectivement d'assurer un niveau de vie et un, intéressant et un confort hein, et certains privilèges, d'avoir un financement, il y a beaucoup moins de temps pour mener des entretiens sur un terrain et beaucoup moins de présence donc, sur un terrain, ce qui peut être parfois très gênant lorsque, dans le cadre de sa thèse, on a comme idée de faire des entretiens, comme l'idée d'être dans de l'observation participante sur un terrain. Il faut jongler avec les exigences de l'institution et ben, ses envies propres. Et donc, en fait, la recherche est biaisée à ce niveau-là. Et l'espace, les enjeux personnels de recherche sont obligés de revoir à minima ou de réduire ou de changer sa méthodologie. Donc, ce qui était un travail solitaire se retrouve fortement modifié par les injonctions de l'institution.
Alors, quoi qu'il en soit, il y a forcément un moment ou un autre, quel que soit le statut du doctorant, où on va se retrouver face à l'espace scriptural de l'écran. Donc là, c'est l'instant où on va contempler et participer à l'élaboration de sa thèse en devenir. Et on a défini que dans les deux cas, c'était vraiment un espace où on voyait son éthos de chercheur se dessiner à travers l'écriture de sa propre recherche.
Et ça, c'est vraiment un espace qui nous a semblé commun et sur lequel, là par contre, quel que soit le statut hein, de l'enseignant, du chercheur, etc., on se retrouve toujours, entre guillemets, sur le texte, hein, on se retrouve toujours face à l'écran. Et c'est là que, de nouveau, on sent le besoin d'avoir un réseau qu'on a construit plus ou moins facilement, un réseau qui va permettre l'échange aussi, hein, l'échange des textes, l'échange des idées, des réflexions. Et c'est là qu'il est vraiment important. Et ce qui nous fait passer ensuite à tout ce qui va être l'enjeu d'un espace de la recherche différent, qui est celui de la valorisation hein, de la recherche, notamment au travers des revues, des colloques, qui sont autant de moments où on n'est plus simplement confronté soi-même à sa propre recherche, mais on va confronter sa recherche aux autres chercheurs. Donc c'est un espace de mise en scène important. Et là, aujourd'hui, on est dans un espace de mise en scène et on se met en scène à tous les niveaux, hein, et ça, on pourra citer la mise en abîme qui est propre à ce niveau-là. Et c'est un espace de réflexivité important hein, pour les enseignants-chercheurs, enfin pour les futurs enseignants-chercheurs et pour l'éthos de l'enseignant-chercheur qui se construit à ce niveau-là pour le doctorant dans le cadre du contrat.
Alors là, ce qui était aussi intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a deux espaces. Il y a l'espace disciplinaire. Donc, si on répond à des revues ou des colloques qui sont dans sa discipline, il faut essayer de décrypter les codes qui sont attendus par les pairs et réussir à se mettre en scène soi-même en tant que chercheur ou bébé chercheur, comme on a pu entendre tout à l'heure, et mettre en scène sa recherche. Alors qu'il y a aussi des espaces interdisciplinaires où là, c'est vraiment une mise en abîme des mises en scène. Parce qu'on va devoir investir ces espaces avec une difficulté supplémentaire, celle de se mettre en scène et de mettre en scène sa recherche, tout en mettant en scène sa propre discipline.
Ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants et qu'on sent ressortir à plusieurs moments. Et nous, on l'a senti aussi parce qu'on a tous les deux fréquenté des colloques qui étaient interdisciplinaires, où on arrive par moments à se demander... Il faut que je défende, entre guillemets, non pas simplement mon travail de recherche, qui est un travail en devenir, mais aussi ma discipline face à d'autres disciplines qui ne sont pas totalement d'accord sur les objets. On a tous plus ou moins vu ces questions-là. Et on est aujourd'hui dans une journée interdisciplinaire. Donc, lorsqu'on dit certains concepts ou lorsqu'on parle de certaines voies ou lorsqu'on parle de certains terrains, on ne pense pas la même chose et on ne veut pas dire la même chose forcément. Donc, il y a ces ajustements à faire et qui sont d'autant plus cruciaux qu'on est déjà dans une phase d'ajustement en soi-même vis-à-vis des propres chercheurs lorsqu'on est dans son propre espace disciplinaire, qui n'est pas toujours un espace bienveillant, qui peut l'être, mais qui n'est pas toujours bienveillant. Donc c'est des moments en tension importants aussi. Et là, de nouveau, on sent l'intérêt d'avoir pu fréquenter des enseignants-chercheurs qui vont vous rassurer, d'avoir ce réseau qui est construit de personnes qu'on connaît, qu'on fréquente en dehors des classes, des cours, pour justement se renforcer et avoir moins de fragilité à ce niveau-là.
Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est des espaces qui sont importants. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il est recommandé de ne pas rester seul. Donc c'est là où on va pouvoir tisser un réseau, éventuellement tisser des relations pour de futures collaborations. Donc pour conclure, en fait, on va dire qu'il y a des attentes et des connaissances qui sont attribuées au doctorant, qu'il ne va pas forcément avoir dès qu'il rentre dans sa première année. Donc ses attentes et ses connaissances, ça peut lui faire une certaine violence symbolique, en fait, parce qu'on le pousse à être quelque chose qu'il ne se sent pas encore tout à fait légitime d'être. Et donc, ça va le pousser à se bricoler une posture en prenant un petit peu des informations de part et d'autre et en essayant de décrypter à tout prix les différents codes en vigueur afin de passer donc, les différents codes en vigueur dans les différents espaces qu'on a pu voir, afin de pouvoir amorcer son éthos d'enseignant-chercheur. Donc c'est un moment où il faut vraiment faire preuve d'une certaine réflexivité, qu'on ait été doctorant contractuel ou qu'on soit doctorant sans financement.
Et pour revenir à la question qui était posée sur la journée, donc la question de savoir des métiers de doctorant, on s'est posé la question tous les deux, on y a réfléchi, et on vient d'un laboratoire qui s'appelle le GRIPIC, hein, qui est le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Et donc, on a réfléchi à la question de savoir, est-ce que c'était un processus? Est-ce que le doctorat pouvait être considéré comme une propédeutique au métier d'enseignant-chercheur, comme un espace, comme un processus en devenir? C'est ce processus-là, il rencontre d'autres processus qui sont, comme je le disais, pas toujours bienveillants. La situation de l'enseignement supérieur et de la recherche est assez compliquée, hein, avec ses injonctions paradoxales et ses logiques qui ne sont pas toujours logiques, justement. Un point sur lequel on voulait venir et finir, c'était la question des... donc, en dehors de ces espaces de mise en scène codifiés, on retrouve des espaces un peu interstitiels, en fait, et qui sont peut-être... par moment, les espaces les plus importants. Hein. On l'a vu beaucoup dans tous les travaux en sociologie, ça va être la machine à café, le couloir entre deux portes dans un bureau, à la sortie d'un cours, etc. C'est des moments où on va pouvoir rencontrer d'autres chercheurs, d'autres enseignants-chercheurs. Il y a d'autres espaces particuliers. Moi, par exemple, j'ai beaucoup été dans le milieu associatif au niveau doctoral. Donc c'est un milieu qui permet aussi de se former, qui permet aussi de se sentir moins seul et permet d'échanger. Et d'autant plus, lorsque c'est interdisciplinaire, on se rend compte que, quelle que soit la discipline, le doctorat, c'est plus ou moins toujours la même chose et on partage les mêmes expériences, les mêmes problèmes, les mêmes rapports avec l'institution, les mêmes rapports avec les directeurs de recherche. Et donc ces espaces interstitiels, ils ont vraiment un enjeu très fort dans la construction de cet ethos d'enseignant-chercheur, mais aussi en même temps dans la possibilité de chercher quelque chose d'autre, parce que c'est dans ces espaces interstitiels qu'on va entendre parler d'opportunités, de faire autre chose, de faire des projets, mais aussi de peut-être aller travailler ailleurs, de gens qui ont quitté le doctorat, qui ont quitté le milieu de la recherche, honte à eux, et qui sont allés faire d'autres choses. Donc c'est les moments où il faut jouer un petit peu de ça aussi. Voilà. Merci.
Merci.
Merci beaucoup pour cette communication et merci d'avoir tenu parfaitement le temps. Et je passe la parole maintenant à Magali Roux de Mange.
Bonjour, donc je suis Magali Roux de Mange. Je suis doctorante à l'Université de Lorraine au sein du LISEC. C'est le laboratoire, je vais le dire des bêtises, interrégional des sciences de l'éducation et de la communication et au Conseil régional de Lorraine. Donc le « et » est important puisque ça va... expliquer la suite sur les espaces de travail. L'objet de ma recherche concerne l'évolution du métier de formateur dans le développement territorial. Donc, ma communication s'appuie sur la recherche que je mène actuellement dans le cadre de ma thèse qui est supportée par un contrat sous forme de convention CIFRE auprès du Conseil régional de Lorraine. Donc je vais m'appuyer sur mon expérience des 12 derniers mois en tant que doctorante pour questionner les espaces de travail en tant qu'espace physique autour d'enjeux méthodologiques et de positionnement dans la recherche en thèse. Donc, dans un premier temps, je vais aborder la mixité des espaces de travail, puis la question des attentes traduites par ces inscriptions dans ces lieux, ce qui était vu juste avant, là, et l'impact sur le travail du doctorant, puis ce que ça implique en termes de modalités relationnelles et au niveau de la posture, au niveau du nivellement de la réflexion qui est demandé, pour finir sur la question des tensions entre professionnalisation et métier du doctorant. Donc, dans un premier temps, il est nécessaire que je précise les éléments contextuels qui vont permettre de délimiter le cadre de la recherche et comprendre ces différents ancrages géographiques. Donc, la convention CIFRE est peu utilisée en sciences humaines et sociales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une convention industrielle de formation par la recherche. C'est un mode de financement et d'ancrage de la recherche. Donc, ce dispositif subventionne toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur de l'enseignement supérieur et de la recherche qui en a confié la mise en œuvre à l'ANRT. Donc ANRT, Association Nationale Recherche Technologie. Donc ça implique, en termes de système, ça implique des contraintes fortes puisque ça demande une collaboration, une coordination de l'ANRT, de l'entreprise employeuse, du laboratoire, de l'école doctorale et du doctorant. Donc, de nombreux acteurs institutionnels sont impliqués dès la constitution du dossier, donc très en amont du démarrage de la convention et donc de la thèse. Et les demandes institutionnelles sont multiples et doivent se rejoindre pour la mise en œuvre de la CIFRE. Donc, on est proche de l'étudiant salarié ou de l'étudiant contractuel. Donc plus spécifiquement dans mon cas, cette recherche qui s'inscrit dans le contexte du Conseil régional a été impulsée suite à des échanges entre doctorants, donc moi, et la vice-présidente du Conseil régional qui ont amené à cette idée de proposer une recherche au sein du Conseil régional. Donc ça s'inscrit dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, le CPRDF, pour ceux qui connaissent. Donc l'idée, c'est de développer des compétences, accompagner les changements professionnels tout en anticipant les mutations économiques et sociales sur un territoire. Donc il y a une dimension politique dans la demande de départ. Donc déjà là, on voit que le contrat implique un travail de concertation des différents acteurs de la formation sur le territoire régional. Donc dès la demande, il y a cette question de la coordination. Alors ça se traduit géographiquement, on va arriver aux espaces de travail, par une inscription dans un lieu institutionnel politique, dans mon cas à moi. Donc la première de mes activités en tant que salarié, ça a été totalement consacré à la recherche d'un espace au sein de cette institution pour mener les missions de recherche. Donc il a été intéressant de constater que 2 jours après mon arrivée, une proposition de la hiérarchie a été faite pour trouver un espace de travail en dehors du service, pour trouver une réponse à un souci de manque de place. Voilà, donc finalement, un accord a été trouvé avec le laboratoire à l'université pour qu'un bureau y soit mis à ma disposition la moitié du temps et l'autre moitié dans une structure qui est portée par le Conseil régional sur des questions concrètes par rapport à ce que j'aborde moi dans ma thèse. Donc ça met finalement en avant la question de la place qui est donnée par l'institution politique à l'activité de la recherche et au travail du doctorant. Donc là, j'insiste sur le terme « travail » parce que c'est au-delà de l'activité et de l'emploi, parce que l'emploi, et je pense à Descollonges, l'emploi, elle explique qu'il peut évoluer à travers l'environnement, il est mobile, il peut être transféré d'une personne à une autre. Donc là, moi, je veux parler aussi des pratiques, donc au sens plutôt de Mauban, où on inclut les activités qui vont transformer le réel. Donc ici, le déplacement géographique de l'activité du doctorant en dehors de l'institution politique a eu pour impact un déplacement contraint de mon regard, une exclusion de la vie institutionnelle quotidienne, une recherche de compréhension des enjeux et des jeux d'acteurs, et une recherche de ressources humaines à l'extérieur du contexte. Donc après une première phase un peu déstabilisante, il y a eu un fort bénéfice en termes de distanciation scientifique et d'ouverture de marge de manœuvre. Ça m'a permis d'élargir mon exploration. Et au niveau de la méthodologie de recherche, mon observation s'est alors portée sur des axes visibles de l'extérieur, les choix qui ont été opérés par les acteurs institutionnels concernant mon objet. Donc sur le plan des compétences, la demande en creux de non-présence dans l'espace institutionnel m'a fortement mobilisée sur le plan de l'autonomie, la réflexivité, la conduite de projet, le développement de partenariats, la veille d'informations, ce qui était dit hein, tout à l'heure, tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence économique. Donc on voit bien que le choix des lieux et des espaces vont avoir un impact fort sur les compétences qui vont être mobilisées par le doctorant. Plus précisément concernant les attentes, et les attentes pour le coup opérationnelles, on sait qu'il y a dans le travail une forme d'opacité, et dans ma situation, le nombre d'interlocuteurs dans le système CIFRE a engendré un amalgame de représentations des partenaires sur ce qu'était cette recherche, et ça a créé de nouvelles contraintes liées à des attentes non formulées d'acceptation d'une normativité institutionnelle. Donc ça a impliqué pour le doctorant de repérer et de communiquer autour de ces attentes, donc des siennes et de celles des institutions, qui n'étaient pas forcément très claires, et pour ensuite pouvoir rassurer et mobiliser l'ensemble des partenaires de la recherche. Donc cette pluralité du lieu de travail a demandé un effort de rédaction d'écrit permettant de verbaliser un contour harmonisé des activités de recherche et une intégration dans les différents espaces. Donc on va voir en quoi les attentes des institutions pourvoyeuses de travail pour le doctorant ont un impact sur cette formalisation, en commençant par les attentes de l'employeur, puis celles du laboratoire. Dans le contexte des métiers de la formation, qui est l'objet de ma thèse, il y a déjà cette forme d'opacité et de manque de visibilité de ce que sont ces métiers. Et ce qui est attendu par l'institution, par rapport à mon travail de thèse, serait d'apporter une nouvelle lisibilité du métier de formateur en termes de positionnement et d'interaction dans le système lorrain vis-à-vis de la formation professionnelle. Donc, plus spécifiquement, les attentes du Conseil régional seraient de pouvoir préciser les actions à mener par le Conseil régional. Donc, l'idée, c'est de soutenir et développer l'accompagnement et la formation des formateurs. Et du coup, les modalités d'analyse et d'expérimentation que je mène devraient permettre d'établir des conclusions opérationnelles préalables au lancement des actions politiques régionales. Donc on voit que ces attentes sont de nature très opérationnelle. Il a été nécessaire de formaliser le cadre de la recherche, et plus précisément celui de l'ancrage géographique. Donc pour la mise en place de cet espace de travail et mon acceptation par les professionnels dans le lieu, ce qui n'a pas été une mince affaire, un représentant de l'équipe m'a demandé de rédiger un document qui encadre totalement mon travail dans l'espace. Donc c'est comme un document de conduite de projet avec les objectifs, les résultats attendus, les livrables, les échéances, le périmètre de la mission. Voilà, tout est encadré par ce document. Donc on voit que la demande institutionnelle de l'employeur en termes de résultats est particulièrement forte et engage un travail sur le terrain qui nécessite une conduite de projet au-delà des aspects conceptuels. Donc le rythme et l'espace politique sont très différents de ceux de la recherche. Par exemple, la nécessité de m'intégrer au groupe pour garder un regard anthropologique m'a imposé de me plier aux conventions sociales du lieu dans lequel j'utilise un bureau à mi-temps, notamment en termes d'horaire et de modalités relationnelles. Donc cette intégration, ça a multiplié la possibilité de recueillir des données et a fait fourmiller ma première exploration. Donc en termes de méthodologie de recherche, il a été nécessaire de créer des outils permettant de garder des traces de mes observations. J'ai entendu ce matin parler de carnet de bord, donc ça a été aussi le cas. Mais l'idée, c'était aussi d'intégrer une trace du biais qui était engendré par ma propre activité et ma présence au sein de cette structure, puisque cette structure fait partie du système que j'interroge. Donc maintenant, concernant les attentes du laboratoire vis-à-vis de mon travail, elles se sont tournées naturellement vers la production de connaissances. La culture du lieu et la temporalité des activités sont très différentes de celles du lieu opérationnel. Et les directions qui ont été données à mon travail se sont orientées entièrement vers une décentration du terrain et le développement d'un esprit critique vis-à-vis de la commande de l'employeur. Donc c'était, oulala, il te demande ça, mais c'est pas ça ta thèse. Donc prends du recul, prends du recul. Donc voilà. Donc ce lieu, c'est aussi celui dans lequel d'autres tensions se sont mises en mouvement, et c'est ce que j'ai entendu juste avant, celle des stratégies identitaires. Et là, moi, je pense à Mokhtar Kadouri. Donc l'activité de réflexion dans le cadre d'un doctorat ne peut pas être soumise à des injonctions de délais courts, comme ça l'est dans d'autres terrains plus opérationnels. Et il a été nécessaire pour moi de travailler à la mise en place subjective et à l'organisation de cette décentration vis-à-vis du terrain. Donc il m'a fallu m'adapter à une temporalité totalement nouvelle, notamment des temps de production très différents. Mes expériences professionnelles précédentes de responsable d'organisme de formation m'ayant habitué à une densité de production concrète très intense, un rythme effréné. Donc voilà, mes activités dans l'espace de travail du laboratoire ont consisté, au-delà des lectures et des recherches bibliographiques, à observer, à analyser la vie du laboratoire, la vie de la recherche, les modalités de travail des enseignants-chercheurs. Et cette activité qui n'est pas forcément dite, c'est celle qui traverse les questionnements identitaires et qui soutient aussi les stratégies identitaires des doctorants. Donc nous avons vu que l'inscription dans chaque lieu de travail a apporté des contraintes et une forme d'activité spécifique, mais on sait aussi que la pratique d'activité de recherche n'est pas cloisonnée par celle des lieux géographiques, mais elle se pense aussi dans leur croisement et dans leur chevauchement. Donc en termes de verbalisation et de modalités relationnelles, l'activité consiste à élaborer un dialogue qui est centré sur l'objet, la problématique ou la méthodologie de recherche, mais toujours en lien avec les personnes, leurs origines, la culture du lieu dont elles dépendent. Donc c'est toujours cet ajustement dont on parlait juste avant, en fonction des personnes qui concerneront toujours le même objet, mais traduites de manière différente à chaque fois. Donc sur le plan de l'impact de ces activités liées aux espaces de travail, les compétences qui sont dès lors mobilisées au niveau relationnel sont la formalisation orale et écrite d'un discours et d'un langage suffisamment précis et souple pour intéresser toutes les parties concernées par cet espace de travail. Donc c'est un vrai défi en démarrage de doctorat, moment où l'élaboration de l'objet et de la problématique est seulement en train de démarrer. Donc derrière cet ensemble d'activités transverses aux espaces de travail, se pose alors la question de la légitimité du doctorant à partager une culture, des normes, tandis qu'il n'est pour l'instant pas reconnu comme un pair dans ces lieux et que son identité de chercheur est seulement en train de se construire. Alors en effet, cette première année de thèse, au-delà de la conduite des projets pour l'employeur et pour la thèse, a été consacrée à trouver une association entre les terrains, une coordination entre les attentes institutionnelles et la recherche de marge de manœuvre qui inclut l'ensemble des contraintes. Donc, puisque voilà, les modalités de recherche, dans mon cas, visent à caractériser les métiers de la formation, tout en mettant en tension leurs caractères historiques et les enjeux économiques et sociaux, j'ai choisi d'expérimenter la création d'un réseau qui implique l'ensemble des représentants des acteurs de la formation. Voilà, donc ça, c'est ce qui va me permettre de recueillir des données sur le terrain, au-delà des observations déjà réalisées. Et donc, on voit que dans ce contexte de mixité des espaces de travail, ça va me demander, en termes d'activité, de réaliser un effort constant de nivellement de ma réflexion pour veiller à limiter le risque de perdre l'indépendance de ma recherche, puisque je vais être soumise à une forte commande, je suis déjà soumise, hein. Et ça implique d'interroger de manière réflexive, et je l'ai entendu juste avant, au niveau des liens entre les niveaux opérationnels et institutionnels de la commande et les niveaux opérationnels et scientifiques de la recherche. Donc c'est toujours dans cette recherche de compréhension des liens. Et le rattachement du doctorant à un laboratoire et à l'université garantit un encadrement du mode relationnel entre ce chercheur et le commanditaire institutionnel. Donc en termes d'enjeux, on retrouve ici une tension autour des positionnements politiques et scientifiques qui sont associés dans une collaboration et dans un discours pluriel. Donc ce sont les interactions et les modalités relationnelles issues de ces positionnements qui interrogent les rapports entre le savoir et la politique. Donc, concernant les liens entre la recherche et la politique, Dubar et Tripier expliquent que la coordination des activités scientifiques et des activités politiques va trouver une légitimité, une reconnaissance dans la mesure où les modalités discursives seront harmonisées et où elles porteront moins les stigmates de leur culture d'origine. Donc, je vous passe la citation. Hein. Voilà, donc on arrive à la fin de la communication sur l'idée de la professionnalisation à travers la réflexivité pour arriver jusqu'au métier. Donc sur l'axe du rapport entre les modalités relationnelles et le positionnement, ça implique pour le doctorant de garder une double forme de constance. Donc il s'agit d'une part de changer constamment de posture et de donner une mouvance dialectique à son objet de recherche en fonction des enjeux interrelationnels des situations qu'il rencontre. Et d'autre part, le doctorant ajuste constamment son positionnement et son regard pour percevoir et analyser l'ensemble des éléments du système sur lequel se base le terrain de recherche. Donc on comprend combien les modalités relationnelles sont centrales dans le travail du doctorant et qu'elles donnent des indications sur les orientations de sa recherche et aussi du système dans lequel elle s'inscrit. Donc, en effet, l'observation et l'analyse des relations entre le doctorant et les différents acteurs donnent à voir des éléments opacifiés du système. Donc, la réflexivité devient non seulement une posture, mais aussi une pratique de recherche totalement inclue, consciente, voire rationalisée du doctorant dans son travail. Donc, vis-à-vis de la professionnalisation du doctorant, ce travail constant de réflexivité met en avant les questions d'identité sociale et de professionnalité. Donc on sait que l'identité sociale repose sur un sentiment d'appartenance collective et une identité individuelle. Et là, je pense à Dubar. Or, on a vu que les espaces de travail du doctorant interrogent fortement l'appartenance collective. J'ai presque fini. Ça interroge donc l'appartenance collective et ça va obliger le doctorant à ajuster son positionnement constamment pour mener ses activités et développer ses compétences. Donc on peut se questionner sur le caractère collectif de la professionnalisation, en ce que le métier se définit aussi par ses interactions dans un système. Donc on sait que ce sont les interactions entre l'environnement et le sujet qui vont lui permettre d'être acteur de ses choix et de ses pratiques. Et là, je pense aussi à Vitorski qui a été cité ce matin, parce qu'il caractérise la professionnalité comme la reconnaissance par le collectif des attributs d'un professionnel. Et cette reconnaissance par les autres des compétences amène à une élaboration identitaire et va permettre au sujet d'appartenir à ce groupe professionnel qui a le même métier. Donc la question de l'espace de travail comme mode de socialisation est essentielle dans la réflexion autour des notions de métier, puisque selon Dubar et Tripier, toujours c'est au niveau de la société que l'on trouve la plus importante de toutes les réalités de l'existence de l'individu. Et donc, pour conclure, sur la question du métier de doctorant, le terme métier associé à celui de doctorant peut être intriguant, en effet. Et moi, je pense plutôt au désir de métier. Et dès Collomb, j'évoque l'idée que certains métiers peuvent être niés d'une fait d'une négligence de la performance du travail face à l'œuvre et réciproquement. Donc si l'œuvre, c'est la thèse, rédigée et soutenue, comme si elle avait tellement d'importance qu'on en oublie la performance des actions réalisées pour y parvenir. Donc on pourrait croire que le doctorant pourrait être vu comme une personne qui bénéficie d'un emploi mobilisant ses compétences de recherche, et dont l'œuvre, la thèse, lui permettrait d'accéder au métier de doctorant. Et dans le langage courant, on pourrait alors se demander si le doctorant n'est pas juste un thésard. Bon, Voilà, moi je me pose la question. Mais, et là je vais m'appuyer sur Hostie pour finir. Donc on constate que les espaces de travail sont des données essentielles à analyser dans son travail par le doctorant, parce qu'il cristallise les contours de sa recherche à travers des contraintes qui sont aussi des moteurs dans la progression de sa recherche, ainsi que dans la socialisation et le développement de ses compétences dans son métier. Et Hostie évoque les processus liés au désir de métier. La résurgence d'un désir de métier reflète une quête de réalisation de soi à travers trois processus, la construction de compétences professionnelles, une socialisation au sein d'un collectif de métier et l'identification d'un référentiel d'action. Voilà.
Merci beaucoup. Et on va maintenant écouter Régis Stauder.
Oui, bonjour à tous. J'interviens ici comme voisin, enfin conservateur à la Bibliothèque nationale de France, où le métier, alors peut-être pas le métier de doctorant, le métier d'historien, ça a longtemps été fréquenté cette bibliothèque. Et donc, bibliothèque, recherche, bon, en histoire, mais aussi en littérature, et recherche en sciences humaines en général, ça a longtemps été lié à cet espace de travail qu'est la bibliothèque. Dans ses missions, telles qu'elles sont définies par son acte de création, le décret du 3 janvier 1994, donc portant création de la Bibliothèque nationale de France, il est indiqué que la bibliothèque doit conduire des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge. Donc au-delà des doctorants qui peuvent fréquenter ces salles de lecture, l'institution elle-même est productrice de recherche. Elle dispose pour ça du personnel scientifique, donc les conservateurs, les bibliothécaires, mais évidemment, avec des collections de l'ampleur de celles de la Bibliothèque nationale, eh bien ce personnel est toujours insuffisant, je dirais, et donc le renfort de doctorants qui seraient plus précisément attachés à certaines tâches de recherche est tout à fait indispensable. Donc ce que je voudrais faire ici, c'est d'abord retracer un peu l'histoire de l'insertion de ces thésards, doctorants dans la bibliothèque, et puis montrer enfin l'insertion de la bibliothèque dans le système de recherche français et l'opportunité d'insertion que offre la bibliothèque à ses doctorants. Alors, l'accueil des doctorants à la bibliothèque, il est assez ancien. Il y a un premier dispositif qui était celui des pensionnaires. Ça fait un peu Villa Médicis, mais c'était les pensionnaires de l'école normale supérieure. Donc, c'était une première ouverture aux chercheurs et on a eu progressivement l'idée d'étoffer ce dispositif à d'autres personnes et à l'ouvrir. Alors les pensionnaires de l'école normale supérieure, ils ont été affectés à partir de 1978 sur des projets de recherche des différents départements. Et ce statut a été rénové en 1984 par décret portant création des chargés de recherche documentaire, et donc c'est le statut qui est toujours en vigueur. Donc c'est un statut qui a des critères donc très précis. Il faut être normalien, agrégé de moins de 27 ans, et on peut prétendre dans ce cadre-là à un contrat de 4 ans, avec 96 heures d'enseignement par an dans un établissement d'enseignement supérieur, complété par 400 heures par an dans un organisme documentaire. Et la liste s'est régulièrement étoffée depuis 1984. Donc le volume de postes, c'est 16 postes de CRD au total, renouvelable par quart tous les 4 ans, et c'est la mission de l'information scientifique et technique du réseau documentaire, donc la MISTRD, qui tient une commission et qui fait le choix de l'attribution de ces postes. Alors, Ce qu'on constate, c'est que même si la Bibliothèque nationale de France se veut encyclopédique et donc veut agréger donc toutes les disciplines, eh bien, les CRD émargent souvent des disciplines histoire et histoire 30% et lettres pour près de 50% entre une majorité de lettres classiques et puis des lettres modernes et agrégées de grammaire. Alors parmi les si on fait une petite, un petit pointage d'anciens CRD célèbres, il y aurait le président de Paris Sorbonne, hein, Barthélemy Jobert, qui a travaillé sur les livres d'artistes du département des estampes. Il y a François Desroches, il y a Christian Jacob, l'auteur des lieux de savoir, où il y a toute une partie même qui est consacrée aux bibliothèques, hein, bibliothèques et bases de données, dans le premier volume des lieux de savoir, Espace et communauté, 2007. Et puis d'autres personnes, comme des écrivains, Frédéric Berthet, qui est décédé, Adrien Goetz, l'essayiste William Marx, etc. Alors on voit bien que le critère des CRD est très restreint, et donc on a voulu élargir notre base de chercheurs à travers un programme qui s'appelle donc l'appel à chercheurs, et qui a été lancé à partir de 2003. Alors l'objectif, c'est d'intensifier ses liens avec le monde de la recherche. Le candidat qui répond à l'appel à chercheurs le fait soit sur un sujet personnel, donc sous forme de candidature spontanée, ou alors il pioche dans une proposition de sujet que la bibliothèque établit en fonction des priorités qu'elle a dans le traitement de ses collections. Donc il y a plusieurs axes de recherche. Bon, un premier, c'est les collections, les archives, les acquisitions du dépôt légal. Le deuxième axe, c'est plutôt la valorisation de ces collections. Et c'est un point très important parce qu'on a des mécènes qui permettent le financement de l'année de recherche pour certains chercheurs, comme la fondation Louis Roederer, par exemple, sur la photographie. Et ces mécènes sont très attentifs au retour en termes d'image qu'ils peuvent avoir de cet investissement. Donc, par exemple, la fondation Louis Roederer, elle apprécie évidemment qu'il y ait, au terme du travail, une exposition qui puisse se mettre sur pied. Bon, il y a eu l'exposition Terre humaine qui a pu ainsi être présentée. Et puis, bientôt, va ouvrir, octobre 2014 jusqu'à février 2015, l'exposition sur l'œuvre de la photographe Alix Cléo-Roubaud, qui était la compagne de l'écrivain Jacques Roubaud. Donc ces deux exemples qui montrent que la fondation Louis Roederer associe donc déjà son nom aux expositions de photos de la Bibliothèque nationale de France, mais en plus à ses programmes de recherche. Et puis, comme on est une bibliothèque, on insiste aussi sur un troisième axe qui serait l'histoire du livre et des bibliothèques. Parce que si quelqu'un doit défendre ce domaine de recherche, c'est bien la bibliothèque, où on a toutes les compétences dans le personnel pour défendre ce terrain d'étude. Les chercheurs qui sont associés à la bibliothèque donc, ont un certain nombre d'avantages et éventuellement ce soutien matériel accordé donc, soit sur fonds propres de la bibliothèque, soit par des mécènes. Donc, il y a, sur fonds propres de la bibliothèque, il y a 3 bourses de 10 000 euros qui sont versées au titre du legs Pasteur Valéry Radeau. Il y a une bourse de 10 000 euros qui est versé sur une recherche qui concerne la photographie par la fondation Louis Roederer, qui est grand mécène de la culture. Bon, en fonction de la qualité des candidatures, on n'arrive pas toujours à partager les lauréats, donc il y a parfois une bourse inférieure de 5 000 euros qui est versée. On a aussi un prix littéraire à la bibliothèque qui est le prix de la BNF et on associe une recherche au lauréat de ce prix avec une bourse de 8000 euros. Et il y a depuis donc cette première année, là, on va l'inaugurer, un mécène exceptionnel américain, Mark Pigott, qui offre une bourse, une ou plusieurs bourses de 10 000 euros. Là, on commence avec une première bourse de 10 000 euros pour des recherches dans le domaine des arts, de l'histoire de l'art, de l'innovation et des technologies. Il y a un fonds de dotation d'un million de dollars qui a été versé par ce mécène et qui doit financer donc, le nombre de bourses en fonction du produit financier de ce placement. Et puis Claude Maillard, qui est une personne qui a donné ses archives à la bibliothèque, elle souhaite aussi valoriser ce fonds qu'elle a donné et donc elle propose une bourse de 10 000 euros à un chercheur sur 3 ans. Il faut aussi parler de l'évaluation de ces chercheurs. Donc ça devient une composante essentielle, évidemment, de la recherche comme d'un établissement tel que la BNF. La BNF est très observée, évidemment, de sa tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Communication, et elle signe avec ce ministère un contrat de performance où il y a un certain nombre de critères, et parmi ces critères, eh bien, il y a le nombre de chercheurs invités associés, le nombre de bourses attribuées aux chercheurs. Alors, c'est des critères quantitatifs, je peux vous donner le bilan un peu chiffré. Donc, depuis 1978, c'est 56 pensionnaires et CRD. Il y a eu 133 chercheurs associés et invités depuis 2003. Donc ça fait au total presque 200 chercheurs qui ont été accueillis dans ces cadres à la bibliothèque. Évidemment, l'évaluation se fait aussi de manière quantitative et donc le chercheur bien produit, mais ça c'est évidemment pas dans le contrat de performance, un bilan final pour laisser une trace de son passage à la bibliothèque. Donc cet accueil des doctorants, évidemment, ça étoffe les possibilités de recherche de la bibliothèque, mais ça aussi élargit la communauté de recherche à ces doctorants, qui sont intégrés à la fois dans l'établissement lui-même, dans le système français de la recherche, et puis dans le monde de la publication. Donc, ces doctorants ont fait en sorte qu'ils soient accueillis le mieux possible dans les départements de la bibliothèque. On dispose d'une instance qui est le comité d'histoire de la bibliothèque, qui est créé un peu sur le modèle des comités d'histoire qu'on peut trouver dans les ministères, comme le ministère de la Culture, qui a créé en 1999 son comité d'histoire. Qui s'ouvre. Alors au départ, c'était beaucoup des bibliothécaires qui s'intéressaient à l'histoire de leur bibliothèque. Aujourd'hui, on essaye d'ouvrir ça avec notamment la participation de Bernadette Dufresne dans ce comité d'histoire. Donc elle a dirigé un volume sur l'histoire du centre Georges Pompidou avec ses étudiants masterants. Donc ça pourrait être un modèle pour l'histoire aussi de la BNF. Et une des trois bourses Pasteur Valéry Radeau que je vous citais tout à l'heure est fléchée sur l'histoire du livre et des bibliothèques, et donc un chercheur qui travaillerait sur ce domaine pourrait évidemment y prétendre. J'ai développé aussi un groupe virtuel des doctorants qui sont accueillis comme chercheurs à la BNF à travers le réseau LinkedIn, donc, puisqu'on est éclaté dans tous les départements de la bibliothèque. Ça permet un peu une fédération virtuelle de ces chercheurs qui publient un peu l'actualité de leurs propres recherches sur ce réseau. Et puis, On a une journée un peu de convivialité, qui est le bilan d'étape au mois d'avril, où l'interdisciplinarité se confronte les expériences de recherche des uns et des autres. Par exemple, cette année, on avait un chercheur qui travaillait sur les masques aux arts du spectacle, Claude Desimon, et puis une maître de conf d'Orléans, Corinne Legois, qui travaillait sur les bals masqués de la restauration aux années folles. Évidemment, ils ont pu échanger, et je pense que ça a été poursuivi ensuite après cette journée. On dispose aussi à la bibliothèque d'une revue, qui est la revue de la BNF. Et donc on peut tout à fait ouvrir cette revue aux chercheurs associés qui proposent des textes. Et donc on a, il y a en ligne, vous pouvez regarder sur le site de la bibliothèque ou des éditions de la BNF plus précisément, il y a l'index de la revue de la Bibliothèque nationale de France. Moi j'ai pointé 8 publications de doctorants qui étaient accueillis par ces programmes. Ça va de publications sur l'art vidéo, sur Guy Debord, sur les factums, etc. Au-delà de cette intégration dans l'établissement, qui est l'accueil qu'on l'on doit à ces doctorants que l'on appelle, hein, à travers l'appel à chercheurs, on leur offre aussi la possibilité de s'insérer de manière plus fluide dans le système français de la recherche. Et la BNF est un maillon de ce système de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'on accueille depuis longue date des laboratoires du CNRS dans nos murs, comme l'IRPMF au département de la musique. On a un partenariat évidemment avec le CNRS. Et puis on se rapproche d'universités, on s'est rapproché notamment de Paris-Sorbonne à travers une convention, on participe à 7 laboratoires d'excellence, l'ABEX-CAP, Passé dans le présent, Transfopress, RH2H, Aztec, Chercher le texte, Hopville. On participe à 2 équipements d'excellence, Patrima et surtout Biblissima. On a 8 projets ANR en cours, Scorlib, EV, IDT, Archise, Median, HEMEF, ECHO, DIFDEPO, donc sur l'Oulipo. Et donc les doctorants, évidemment, ont la possibilité de s'agréger à ces projets, et on voit que ça marche. Il y a une agilité finalement pour que tout s'agglomère. Quelques exemples, il y a une chercheuse associée qu'on a accueillie de 2006 à 2009 qui est Camille Blumfeld. Et elle est aujourd'hui recrutée sur un contrat postdoc par le projet d'Yves Depot, donc sur le groupe littéraire de l'Oulipo. Et on a aussi une chercheuse associée depuis 2013, Maria Polaclin, qui travaille sur ce projet avec l'exposition à l'Arsenal qui va ouvrir l'année prochaine sur l'Oulipo. Un autre exemple, Cécile Kubik, elle a été chercheuse associée depuis 2013, donc depuis l'année dernière, et elle participe au programme ANR sur l'enseignement de la musique au conservatoire au 19e siècle, HEMEF. Autre exemple encore, Hélène Fleckinger, donc elle était associée de 2008 à 2013, elle est aujourd'hui maître de conf à Paris 8. Et elle est responsable d'un des projets du LabEx RH2H, qui est cinéma, vidéo, art et politique en France depuis 1968, auquel on a s'adjoint aujourd'hui Vivien Sica, qui travaille aussi sur cette vidéo militante. Enfin, la BNF donc permet une large valorisation des résultats de ses doctorants. À travers les publications donc, qu'elle peut offrir. Donc, vous savez que aujourd'hui, ben, les bibliothèques, elles sont plus seulement, elles ont plus le monopole de réceptacle des produits de la recherche, puisque la recherche, elle est en ligne, elle est dans les réseaux qu'on peut trouver, et notamment dans l'open access, donc qui suppose un accès ouvert à tous. C'est une recommandation de la Commission européenne, et la BNF, donc, évidemment, se conforme à cette recommandation, et elle a rejoint le portail d'archives ouvertes pluridisciplinaire HAL. Et donc, si vous tapez HAL BNF, vous pouvez tomber sur toutes les publications, donc souvent de collègues conservateurs, mais aussi de doctorants qui ont la possibilité d'y déposer leurs travaux, leurs résultats de recherche. On essaye aussi de valoriser envers le grand public et pas seulement envers la communauté de recherche. Par exemple, pendant les journées du patrimoine de l'année dernière, il y a eu un atelier sur la fabrication du bijou qui a été organisé par Romain Prévalet. À travers les réseaux qu'on peut avoir, on arrive à placer des doctorants dans des festivals, dans des journées d'études, par exemple dans le festival d'histoire de l'art à Fontainebleau, donc qui s'ouvre au grand public. J'arrête. Donc, on voit bien que la BNF donc, parvient à travers les doctorants à irriguer à la fois le réseau de la recherche et du grand public et des amateurs. Merci.
Merci beaucoup. Je suis désolée de vous stresser pour le temps. C'est vrai qu'on a un programme assez dense. Et donc pour notre quatrième et dernière intervention donc dans cet axe, on va écouter Christian Yann-Mess.
Merci. Je suis Christian Yann-Mess, doctorant à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, laboratoire habité. Je suis géographe. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices pour m'avoir associé à ces moments de réflexion sur les métiers de doctorant ou doctorante en sciences humaines et sociales. Le sujet sur lequel je vais retenir avec vous s'intitule « Rédiger une thèse dans le contexte africain, entre opacité et abus de pouvoir ». Par opacité, il faut tout simplement entendre ici les difficultés d'avoir accès aux informations dans les administrations publiques et par abus de pouvoir, l'attitude hostile de certains responsables administratifs à me fournir des informations nécessaires à ma recherche. Ma thèse porte sur la politique de défense et de sécurité des organisations régionales en Afrique centrale et je m'intéresse particulièrement à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est une organisation régionale qui regroupe 11 États, notamment le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, sa Centrafrique, l'Angola, la RCA, la RDC, et le siège se trouve à Libreville. Et la problématique de ma thèse est de savoir comment la CAC, cette organisation, perçoit les menaces qui guettent son environnement. À partir de là, il s'agit pour moi de voir les dispositions prises par cette organisation régionale pour faire face à ces menaces et s'interroger sur l'apport extérieur puisqu'il s'agit d'une analyse géopolitique qui s'appuie sur les analyses diatopiques qu'on peut faire à partir d'une échelle régional et arriver à l'échelle locale. La formulation de ce sujet implique sans doute une difficulté majeure car elle touche à un domaine assez sensible. Cet aspect important a eu des conséquences sur mes enquêtes de terrain, notamment les données non fournies, des entretiens limités, etc. En proposant ma communication aux organisatrices, il était question pour moi d'expliquer d'une manière générale comment se sont manifestées ces difficultés et quels ont été des stratagèmes que j'ai élaborés pour les contourner. Cependant, afin de mieux adhérer ma communication à la thématique centrale, les organisatrices m'ont plutôt proposé de voir dans quelle mesure toutes ces difficultés auxquelles j'ai été confronté ont plus ou moins contribué à mon expérience ou à mon devenir de chercheur. Avant d'avoir abordé cette problématique, je voudrais brièvement rappeler, pour bien circonscrire ma démarche, le contexte sécuritaire de ma zone d'étude et le but de mes enquêtes de terrain. En ce qui concerne le contexte sécuritaire de l'Afrique centrale, d'une manière générale, l'Afrique centrale est une région polémologène, c'est-à-dire que c'est une région qui connaît pas mal d'instabilité. Sur les 10 États qui composent cette organisation, il y a 7 au moins qui ont connu des conflits au cours de ces 15 dernières années. C'est aussi une région d'enjeux majeurs. Elle a des frontières qui sont minées de zones grises, de nouvelles menaces. On parle de plus en plus de la piraterie dans le golfe de Guinée, de la criminalité transfrontalière et des mouvements armés qui se développent, notamment le cas récent de Boko Haram, qui est une organisation d'origine nigériane, mais qui sévit actuellement au nord du Cameroun. Et la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, qui est une organisation régionale d'origine ougandaise, qui sévit actuellement dans la plupart des États de l'Afrique centrale. À ces enjeux majeurs s'ajoute la préoccupation majeure de la plupart des États africains, c'est-à-dire le déficit de l'État de droit, avec toutes les injustices que cela implique, notamment la pauvreté, la défiance de l'autorité de l'État, etc. Le but de mes enquêtes de terrain était effectivement d'aller à la rencontre des acteurs de la sécurité régionale de l'Afrique centrale, notamment ceux qui sont au siège de la CAC, pour voir et s'interroger sur les dispositions que cette organisation met en place pour faire face à ces menaces. Cependant, j'ai été confronté à plusieurs difficultés qui m'ont amené à réfléchir sur mon devenir de doctorant ou éventuellement chercheur. Je vais donc, dans le cadre de cette réflexion, évoquer trois moments. Premièrement, je vais aborder les difficultés que j'ai rencontrées. Ensuite, je aborderai les stratagèmes qui m'ont permis de les surmonter pour enfin voir comment cette expérience contribue ou pourra contribuer à mon devenir de doctorant ou à ma construction de carrière en tant que chercheur. Au niveau des difficultés rencontrées, l'Afrique centrale est une région très, très, très vaste. Je l'ai dit tantôt, elle regroupe 10 États. Compte tenu de l'étendue de la région et pour des raisons d'ordre méthodologique, j'ai donc choisi de faire mes recherches spécifiquement au niveau du Cameroun et du Gabon. Le choix de ces deux États se repose sur le fait que le siège de l'organisation se trouve à Libreville, à la capitale du Gabon, et que le Cameroun est l'un des États qui a plus de frontières et qui se retrouve au cœur même de la région, excepté la Centrafrique. Les difficultés que j'ai rencontrées sont naturellement de désordre. Elles se sont manifestées respectivement dans des administrations civiles et militaires et sur le terrain proprement dit. Au niveau des administrations civiles et militaires, les interlocuteurs habilités à me fournir des informations sur des questions de sécurité en Afrique centrale sont principalement le personnel des ministères de l'Intérieur, des Défenses et des Affaires étrangères du Gabon, du Cameroun et de la CAC. Certains agents ayant participé aux missions de paix, notamment en Centrafrique, et le personnel permanent du secrétariat général. Les difficultés que j'ai rencontrées sont notamment liées, premièrement, à l'obtention des rendez-vous. Parfois, j'avais des rendez-vous de 8 heures. J'arrivais à 8 heures et celui qui devrait me recevoir arrivait autour de midi, 13 heures. Parfois, je repartais et on me rappelait pour dire que le monsieur qui devrait vous recevoir est effectivement là. À cette difficulté, il s'ajoute les archives au niveau de la bibliothèque de l'organisation elle-même. Ces archives sont essentiellement liées à l'historique de l'organisation sans pourtant aborder la problématique qui fait l'enjeu de l'organisation. Comme autre difficulté que j'ai, j'évoquerai ici je rencontrais à chaque fois des gens qui plus ou moins exploitaient ma formation pour détourner mes objectifs. Je rappelle que je fais une thèse de géopolitique et en Afrique généralement c'est parfois confondu avec de la politique et certains n'hésitaient pas à m'interroger ou à sonder mon sentiment politique dans la région au détriment des questions que je posais à chaque fois. À cette difficulté s'ajoute celle que j'ai rencontrée sur le plan strictement militaire. L'organisation de la CIAC est composée à deux composantes, à une composante civile et à une composante militaire. Sur le plan militaire, la principale difficulté était d'abord sémantique. En fait, tout le mal que j'avais, c'est d'être de m'accorder avec des responsables militaires sur le concept en lui-même. Pour des militaires, la sécurité repose ici sur la défense du territoire et la protection des chefs d'État qui sont censés les incarner. Or, le concept de sécurité en lui-même a beaucoup évolué. Il tend beaucoup plus sur la protection de l'humain et le devenir de l'humain. Pour résumer, la sécurité aujourd'hui est un sentiment, le fait de se sentir en sécurité. De par cette difficulté, je me suis directement rendu compte que je ne pouvais pas obtenir des informations nécessaires à ma recherche au niveau de la administration militaire. J'ai donc décidé d'aller moi-même au contact des populations et je me suis rendu dans la frontière Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale. Cet aspect m'amène à voir des difficultés que j'ai rencontrées sur le terrain. La principale difficulté sur le terrain, puisqu'il s'agit des questions de sécurité, c'est... La principale difficulté, c'était d'abord identifier des acteurs de l'insécurité. L'insécurité est une activité, bon, si on peut parler d'activité, est une activité illicite. Mais lorsqu'on parle de trafic de drogue, trafic de vol de voiture ou des groupes rebelles, c'est parfois des choses qui échappent à l'autorité, de l'État. J'ai donc couru le risque d'aller moi-même au contact de ces populations. Et j'ai choisi de rester pendant 2 semaines dans un village proche de la frontière. Et j'ai essayé de voir comment ces acteurs s'organisent notamment, je me suis principalement intéressé aux acteurs, aux trafiquants de drogue. En fait, la principale difficulté, c'était au niveau, premièrement, de les identifier et de les parcourir. Les villages sont parfois espacés de 1 à 10 km. Il fallait non seulement les parcourir, trouver les moyens de les parcourir et trouver la bonne personne pour me conduire. Ce qui fait que j'arrive dans un milieu rural où je ne connais personne. La première chose, c'était chercher à avoir des contacts capables de me conduire. J'avais prévu faire 1 semaine. J'avais plus ou moins prolongé mon séjour pour 2 à 3 semaines. Et je me suis finalement rendu compte que les voies utilisées par ces acteurs, ce ne sont pas du tout des voies tracées par des pouvoirs publics. C'est des pistes qui relient des villages de part et d'autre de la frontière. Et parfois des heures tardives que ces acteurs opèrent. À cette difficulté, également l'autre difficulté, c'était avec des personnels sécuritaires, notamment des gendarmes, qui, malgré mon visa et tous les papiers que j'avais, n'hésitaient pas de me demander de saluer le képi. C'est une expression plus ou moins consacrée pour payer l'entrée et la sortie. Et je le faisais. Enfin, à partir de là, il m'a été nécessaire de mettre une organisation pour plus ou moins surmonter ces difficultés. Enfin, comme le disent les Chinois, ce n'est pas tant l'eau puits qui est trop profond, et c'est la corde qui n'est pas assez longue pour prendre l'eau. J'ai mis en place une certaine organisation au niveau des administrations. Au lieu d'encore utiliser la voie légale, j'ai dû exploiter mes relations familiales. Étant originaire du Gabon, j'ai dû contacter mon oncle qui a immédiatement saisi le chef du département de l'intégration humaine, paix et sécurité. Les interviews que je ne pouvais pas avoir dans le cadre légal se déroulaient non plus dans l'administration, mais c'était à la maison. Quant au niveau des archives, ce qui me paraît beaucoup plus paradoxal, c'est que au niveau des archives et des écrits, ce n'était pas du tout évident au niveau de l'organisation. C'est par contre au niveau de l'Assemblée nationale de la en France ici que j'ai pu avoir des archives ou à la limite des documents qui portent beaucoup plus sur des opérations, des missions de paix dans la région. Et au niveau du terrain, effectivement, j'ai prolongé mon terrain. Au-delà de la difficulté de la langue que j'ai eue, parce qu'il fallait non seulement discuter avec les populations locales au Gabon, je devrais aussi me rendre au Cameroun et en Guinée équatoriale. Mais la particularité de la Guinée équatoriale, c'est que en Guinée équatoriale, on parle espagnol. Au Cameroun, autant on parle français. Au Gabon, on parle français. En Guinée équatoriale, on parle espagnol. Je ne parle pas très bien espagnol. Mais la chance que j'ai eue, c'est que dans ces trois États, ils parlent une seule langue, c'est la langue fon, que je parle d'ailleurs bien. Donc j'étais obligé non seulement de ne plus faire la recherche en français, j'ai mené ma recherche en langue vernaculaire, en langue fon, ce qui m'a permis plus ou moins d'avoir beaucoup plus d'informations. Les gens étaient beaucoup plus... mes interlocuteurs étaient beaucoup plus sauvés, ils étaient prêts à... Ils ne voyaient plus en moi le doctorant, le chercheur, mais beaucoup plus comme un frère, un ressortissant de la localité et tout. La question est de savoir quelle a été l'apport de cette expérience dans mon devenir de docteur, de chercheur. Je dirais que les difficultés que j'ai rencontrées lors de mes enquêtes de terrain et les stratégies que j'avais élaborées pour les surmonter m'ont permis de développer deux atouts essentiels. Il s'agit d'une part de la capacité à extraire l'information. La capacité à extraire l'information, c'est un pas très important parce que dans des milieux... que l'Afrique centrale, l'information ne se trouve pas nécessairement en bibliothèque, même pas dans des administrations. Parfois, ceux qui font des rapports ne révèlent pas des réalités concrètes du terrain. à cette capacité à extraire l'information, j'ai plus ou moins développé le sens de la vérification. J'ai eu l'opportunité de discuter avec plusieurs acteurs, de confronter des sources et tout. Et au-delà de ces deux atouts, il y a quand même le risque d'aller à chaque fois au contact des personnes qui parfois pratiquent des activités illicites ou qui sont, entre guillemets, dangereux. Cet ensemble d'expériences, du point de vue géographique en tant que géographe, m'a permis d'avoir une bonne connaissance de mon espace d'étude. Comme on dit souvent, l'espace est pour le géographe ce que la boussole est pour le navigateur et le temps pour l'historien. À cela s'ajoute ici la capacité à voir. Capacité à interpréter mon espace d'étude qui n'est pas seulement géographique, qui a une dimension sociologique. Ben, je pense que c'est l'essentiel de cette communication et je pense qu'on pourrait beaucoup plus discuter lors des questions. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Ben, on va pouvoir maintenant écouter notre discutante, Lila Belkacem.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisatrices de m'avoir invitée aujourd'hui. En lisant vos communications et puis en lisant le titre de l'axe, donc quels sont les espaces de travail des doctorants, de manière très égocentrique, j'avais pensé à moi, mon dernier espace vécu pendant la thèse, à savoir les lieux de rédaction. Qui n'étaient pas tout le temps des lieux solitaires, c'était en tout cas des lieux assez éloignés des espaces des titulaires. Et pour le coup, je trouve que ce qui a été vraiment intéressant avec les communications, là, c'est qu'on voit bien qu'en fait, il y a une multiplicité d'espaces tout au long du processus de thèse, et aussi une multiplicité d'enjeux et de contraintes associées à chacun de ces espaces. Et du coup, peut-être avant de passer aux réflexions que m'ont suscité donc vos textes, juste je me présente rapidement pour que vous sachiez d'où je parle. Donc j'ai soutenu ma thèse en novembre dernier à l'EHESS, à l'IRIS. Et pendant mon parcours de doctorat, j'ai connu tout un ensemble de statuts et d'espaces comme chercheuse apprentie sur le terrain au Mali et en France, allocataire de recherche à l'EHESS, à Terre à Poitiers, vacataire à Rouen, à Paris, à Saint-Denis. Demandeuse d'emploi à Pôle emploi, enfin en recherche d'emploi à Pôle emploi, enfin bon, tout un tas d'espaces comme ça pendant ma thèse. Et donc depuis novembre dernier, c'est à nouveau une découverte de nouveaux espaces, de nouvelles expériences. Et petite précision, aujourd'hui, donc, les organisatrices m'ont sollicité en tant que coordinatrice du réseau Jeunes chercheurs santé et société. Je dirais juste un petit mot là-dessus pour que vous sachiez que ça existe. Donc, c'est un réseau de 500 jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions de santé au sens large, dans une perspective pluridisciplinaire, avec différents groupes thématiques, un groupe notamment genre, normes procréatives et périnatalité, un groupe vieillissement, enfin voilà, 8 groupes comme ça thématiques. Et un des objectifs de ce réseau, c'est aussi autour de ce qui tourne, de ce qui touche aux questions de socialisation et de professionnalisation des jeunes chercheurs. Donc voilà, j'arrête pour cette petite présentation. Et donc peut-être que juste ce que je proposais de faire, c'était de revenir sur chacune de vos communications et puis vous dire un petit peu ce que ça avait évoquer la lecture de vos textes et puis ça pourrait être le point de départ pour discuter. D'abord, donc la communication de Marion et François, j'ai trouvé que c'était vraiment une communication très intéressante pour voir justement, c'est la première que j'ai lue, et pour voir la diversité des espaces académiques. Le laboratoire de recherche, le département d'enseignement, les espaces solitaires de la rédaction, les espaces de la valorisation de son travail, etc. etc. Et on voit aussi vraiment la multiplicité des règles et des injonctions contradictoires qui sont liées à ces espaces. Comment est-ce qu'on sait enseigner quand on n'a pas été formé à enseigner? Comment est-ce qu'on peut être intégré dans des réseaux de recherche alors qu'on ne dispose pas d'un bureau où on peut côtoyer au quotidien la vie des chercheurs titulaires? Comment on peut se mettre en scène comme un chercheur accompli et fier de son travail alors qu'on le considère comme largement en devenir et inachevé, etc., etc. Et donc face à tout cela, la comparaison que vous avez faite entre les doctorants contractuels et les doctorants non contractuels, elle était très intéressante parce que je trouve qu'on voit bien les enjeux de ça, de qu'est-ce qui est en jeu, à savoir d'avoir des questions de légitimité. En vous lisant, moi, je me suis rappelée d'un moment marquant de mon arrivée dans ce métier de doctorant. C'était la première réunion de labo à laquelle j'avais participé. Et donc, au moment du tour de table, un des doctorants avait dit « Moi, je suis allocataire de recherche ». Et tous les suivants s'étaient sentis comme obligés, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et vécu, de préciser s'ils étaient financés ou non, avec une certaine violence dans tout ça, j'avais trouvé. Donc des questions de légitimité et puis des questions de socialisation. Et d'ailleurs, à mon avis, dans la question de la construction de réseau, comme vous le disiez bien, le plus important, ce sont peut-être ces espaces interstitiels que sont la machine à café, la cantine, les couloirs, le bureau du laboratoire, etc. Et à ce sujet, il existe, comme vous l'avez dit, de très grandes disparités selon statut, selon l'état d'avancement de la thèse. Selon les efforts déployés par la directrice ou le directeur de thèse à intégrer les doctorants à ces réseaux de recherche, mais aussi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, selon les laboratoires de recherche, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais on pourrait faire le test là, je ne sais pas si tout le monde est de l'EHESS ou pas, mais qui parmi les doctorants sont dans un laboratoire où il y a des bureaux mis à disposition, individuels ou collectifs, pour côtoyer au quotidien la vie de labo et les titulaires, etc. Ça c'est, à mon avis, la question des espaces, c'est aussi ça. Bon, en tout cas, votre communication, elle m'a fait me poser deux questions. D'abord, donc, dans le texte que j'ai lu, donc vous montrez qu'il y a aussi des avantages à être un doctorant non contractuel, notamment parce que ça t'a offert une plus grande autonomie et donc que ça t'a permis de consacrer plus de temps à la recherche. Mais du coup, ça ne pose pas la question de comment font les non contractuels pour vivre, parce qu'il faut bien manger et se nourrir, et du coup, de quels sont les espaces du travail alimentaire comment on fait pour combiner aussi cet espace-là. Puis la deuxième chose que ça m'a évoqué, votre texte, c'est que donc, vous abordez des questions qui sont essentielles et qui sont liées à la violence du milieu académique. Et c'était intéressant parce que dans le texte, alors vous ne l'avez pas dit comme ça après dans la discussion, mais dans le texte, vous parlez pas de la violence des règles et des rites de passage, mais de la violence ressentie, que ça peut faire violence, et puis aussi de la solidité personnelle que les doctorants doivent avoir pour faire face à cela. Et je trouve que ça, c'est des questions qui sont très compliquées à aborder, surtout dans des espaces mixtes et filmés. Mais à mon avis, c'est des réflexions importantes à avoir. Et à ce sujet, par exemple, que la journée se clôture par l'intervention d'un syndicat étudiant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ou encore, je pense aux travaux de Pascal Hague à l'IRIS, qui justement cherche à ce que la question des risques psychosociaux ne soit pas éludée en matière d'expérience de doctorat. Donc voilà, ça c'était un peu comment j'ai lu et entendu votre communication à tous les deux. Et puis à présent, Magali, là encore, c'était vraiment très intéressant parce que du coup, on voit grâce à cette communication, une autre expérience, et c'est l'expérience à partir de l'expérience du doctorat CIFRE, on voit bien comment ça fait aborder d'un autre point de vue, d'un autre angle, les questions
la question des espaces de travail avec ce que j'ai perçu de l'autre part comme un clivage et des injonctions contradictoires donc, entre ces deux espaces que sont l'université ou le labo et puis le commanditaire CIFRE, le conseil régional. Et donc ça m'a évoqué deux réflexions à vous lire. D'abord, oui, d'ailleurs, en vous lisant, je n'avais pas compris qu'à la base, c'était le conseil régional qui n'avait pas voulu de vous, entre guillemets, de toi. Oui, c'est ça. Et du coup, parce que donc, dans ton texte, tu dis « J'ai réussi à m'autonomiser de ce commanditaire par un travail de décentration vers deux autres espaces, une association avec laquelle travaille le conseil régional et puis l'espace académique du labo ». Et du coup, c'est intéressant de voir comment aussi, de la contrainte, t'as mis en place des choses. Mais malgré ça, je me posais la question, parce que comme tu l'as bien dit, la spécificité du travail CIFRE, c'est bien qu'il y a une demande de résultat de la part d'un commanditaire. Et du coup, je me demandais comment tu avais géré ou comment tu pensais gérer ce retour vers l'espace professionnel, entre guillemets. Puis le deuxième ensemble de réflexions, c'est que c'est à propos de ta présence dans le laboratoire, justement. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, finalement, effectivement, est omniprésent quand on travaille dans un laboratoire, c'est qu'on observe comment fonctionnent les gens qui y travaillent. Et j'avais envie, du coup, d'en savoir plus sur les allers-retours au quotidien entre ces deux espaces de travail que sont le conseil régional et le laboratoire. Parce que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on, dans ton intervention, c'est qu'on voit bien comment, en tant que doctorant de CIFRE, tu te représentes dans un entre-deux permanent, dans une marge, et où du coup l'enjeu pour toi, c'est de trouver des bons ajustements et d'être perçu comme légitime au sein de ces deux espaces. Et du coup, peut-être deux questions à ce sujet. Dans ton laboratoire, quelle est la place accordée aux doctorants CIFRE? Est-ce qu'il y en a une spécifique par rapport aux autres types de contrats qu'ont les doctorants? Et puis également, tu parlais de désir de métier. Du coup, là, à l'issue de cette expérience, est-ce que tu arrives à avoir, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu penses que les deux choses sont conciliables ou est-ce que ça fait orienter vers un monde ou plutôt l'autre? C'était ce que je me posais comme question. Régis, en fait, quand j'ai lu le titre de votre communication, je pensais qu'on allait parler du coup de l'expérience des usagers ou des lecteurs de la bibliothèque. Je ne sais pas comment ils font dire. Et là-dessus, y aurait tout un tas de choses à dire aussi en termes, par exemple, de l'expérience du passage du rez-de-chaussée au rez-de-jardin et qu'est-ce que ça fait en termes de positionnement et de fierté d'en être. Ou encore la socialisation au Café des Temps, enfin tous ces choses-là, c'est très parisiano-centré, mais ça a une importance aussi. Mais donc, merci de nous avoir fait connaître une autre source de financement possible. Je ne sais pas si elle concerne un grand nombre de personnes dans cette salle, mais du coup, peut-être juste une question à propos de ça. Est-ce que la BNF finance ou peut financer des recherches qui se décentrent un peu de son corps de préoccupation initiale, à savoir les fonds de la bibliothèque? Ça, c'était la question que je me posais de manière intéressée pour la salle. Et puis Christian et Yann, c'était aussi très intéressant, je trouve, parce que grâce à cette communication, on voit bien à quel point les espaces de travail des doctorants, ça ne concerne pas seulement la bibliothèque, le laboratoire, le bureau de sa chambre, la table de salon de ses amis, etc., etc., mais aussi et avant tout, en tout premier lieu, les espaces qu'on choisit pour mener à bien son objet de recherche et pour mener l'enquête. Et en l'occurrence, dans les espaces du terrain que tu as choisi, on voit bien que tu as fait face à une triple difficulté. D'abord des pays dits sensibles, c'est comme ça que tu as appelé ça, avec des zones de conflit, de trafic, d'intervention armée, des questions, des objets de recherche qui sont également sensibles, avec des organisations, qu'elles soient licites ou non, qui n'ont absolument pas intérêt à ce que soient mises au jour leurs pratiques, leurs stratégies, etc. et donc avec des difficultés d'accès au terrain, qui sont d'ailleurs peut-être sans doute pas propres au terrain africain. Et puis, troisièmement, des préoccupations de mobilité pour toi, chercheur, avec des passages d'un pays à l'autre, d'un poste frontière à l'autre, d'un village à l'autre, etc., etc. Et du coup, en te lisant, il y a trois questions que je me suis posées. Tout d'abord, donc là, ça concerne moins les... Si, ça concerne aussi les espaces du terrain. C'est est-ce que tous les modes de présence dans ces espaces du terrain sont possibles ? Très concrètement, je me posais la question, pour les questions de recherche que tu t'es posées, est-ce que l'intégration prolongée en tant qu'acteur à part entière de l'administration, par exemple, n'était pas le seul mode d'entrée possible, finalement, pour mener à bien ton projet de recherche ? Mais enfin, c'était une question que je me posais. Et puis, la deuxième chose que je me suis dite en t'écoutant, c'est qu'on voit bien aussi le rôle des personnes ressources dans ces espaces du terrain. Alors là, la personne qui t'a sauvée pour cette fois-ci, c'était ton oncle, mais on pourrait aussi penser au rôle des chercheurs, titulaires ou non, mais qui travaillent sur ces terrains, qui sont présents ou qui travaillent sur ces terrains. Et donc, ça pose à nouveau la question de la socialisation des doctorants dans et en dehors du laboratoire. Comment trouver des alliés aussi dans les espaces du terrain et donc trouver aussi d'autres interlocuteurs. Et puis enfin, le dernier point... Oh ben, c'est parfait, je pense qu'il reste. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est le rôle des directrices et des directeurs de thèse qui a été assez absent là, de ce petit tour de table pour justement aider dans ce parcours de recherche, dans le choix des terrains, dans le travail sur la faisabilité de l'enquête. Et du coup, ça pose la question de l'espace aussi du bureau de cette fameuse personne qui encadre comme ça pendant des années notre travail. Voilà.